RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de EDI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, qui est directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur, ainsi qu'Antoine de Vulpilière, qui est associé du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Je vous donne le plaisir d'accueillir Pierre Paulette, directeur général et actionnaire de Talentia Software. Bonjour Pierre.
Bonjour Alain.
Alors vous êtes né en 1971 de formation ingénieur en informatique et en électronique. Et votre premier job, c'était chez Telindus. Vous faisiez quoi à l'époque là-bas ?
Oula, c'était à l'époque de la sécurité informatique. On revendait des équipements de sécurité informatique. On faisait du conseil, on faisait tout un tas de choses. C'est le début de la sécurité informatique devenue cyber plus tard. J'y ai quand même passé 20 ans, pas chez Telindus, mais dans le monde de la cybersécurité.
Alors après, vous allez devenir entrepreneur. Vous avez toujours imaginé de créer une boîte un jour. Pourquoi créer une boîte ? Pourquoi prendre des risques ? On est peinard quand on est salarié. Au pire, on va au prud'homme, on fait une rupture conventionnelle. Pourquoi prendre des risques, Pierre ?
Peut-être parce que mon papa l'était. Et du coup, ces mots prud'homme et risque, je les ai entendus un petit peu
dans l'autre sens. Quoi.
Dans l'autre sens. Et vous voyez, du coup, j'ai vraiment eu envie, après une première période de, je sais pas, j'ai dû rester salarié 5 ou 6 ans de petites et grosses boîtes. Je me suis lancé, je suis parti, je me suis mis à.
Et j'y vais, quoi. Alors racontez-nous. Donc au début, il y a XS Pôle Sécurité va devenir Lexi, qui va ensuite être racheté par Orange Cyber Défense. Tout ça en combien de temps ?
Entre 2001 et 2016, tout ça s'est fait.
Ouais. Voilà. Donc c'était votre boîte que vous avez vendue ?
Oui, c'est une première boîte que j'ai créée, une société de conseil en cybersécurité que j'ai développée. Et puis les hasards de l'histoire ont fait que j'ai pu la vendre au leader de l'époque indépendant qui s'appelait Lexi. Et donc on a fait cette opération en 2007. En 2008, un fonds d'investissement est arrivé, majoritaire, au capital. Et puis l'histoire a fait que j'ai dirigé la boîte à qui j'avais vendu. Et puis ensuite je l'ai développée. Et on l'a vendu à Orange Cyberdéfense en 2016. Et je suis resté 2 années chez Orange Cyberdéfense.
Alors aujourd'hui, donc, depuis 2018, vous êtes le DG de Talentia Software. Alors un mot sur cette ETI qui réalise autour de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 450 collaborateurs.
Voilà, donc une vraie ETI. Dont les clients sont exclusivement des ETI.
Parfait.
Partout,
donc le leader parfait pour
je pense
nous.
Que partout en Europe, Europe du Sud principalement. Alors une grosse région en France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse et l'Angleterre aussi. Qu'est-ce qu'on fait chez Talentia Software ? On développe des logiciels de RH et de finance.
Très bien. Donc, les deux cibles, c'est le DRH et le DAF, vous les aimez. Hein ?
Exactement. C'est nos amis.
Le dirigeant d'entreprise aussi. Quoi.
Ah oui, bien sûr.
Arnaud, futur ami.
Oui, Pierre, je regardais dans votre parcours passionnant qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes à la fois investisseur et dirigeant.
Oui.
Qu'est-ce que vous préférez ?
Alors, Alain a même oublié de dire cofondateur d'une start-up
Absolument.
En cybersécurité, au cas où je m'ennuierais un petit peu.
Oui, voilà. notamment.
Du coup, vous préférez quoi ? Alors, dirigeant ou investisseur ?
En fait, je travaille avec les fonds d'investissement depuis bientôt, depuis 15 ans. Et je m'aperçois que j'aime quand même bien être aux commandes, c'est-à-dire avoir le sentiment de peser sur les décisions, d'être vraiment à la tête d'un business. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on est investisseur. Il faut garder ce petit pas de recul, il faut estimer le potentiel d'une société, suivre les dirigeants, les conseillers pour les acquisitions, pour des ventes, mais il y a un petit côté moins opérationnel qui me
tombe. Je
préfère le manager.
Vous dites ça très très poliment à Généo qui est investisseur. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le même métier que dirigeant. Sur votre activité de Talentia, aujourd'hui finalement, quand vous regardez la vie d'un DRH au quotidien dans une ETI, c'est quoi ses vrais enjeux ?
Alors déjà chez Talentia et comme dans tout le business de l'informatique, appelons-le comme ça avec des termes un peu vieux, vieillissants, il y a un profond changement de business model qui passe de la licence maintenance à la location. Il y a eu le cloud et puis maintenant on consomme des services en ligne et on achète à la consommation. Donc ça, c'est un mouvement profond qui vient percuter tous les éditeurs de logiciels au monde, en tout cas ceux qui ont comme Talentia Software plus de 20 années. Donc ça c'est un premier choc culturel que l'on conduit et que je pilote au quotidien avec un certain plaisir. Et puis aujourd'hui, les DRH comme les directeurs financiers de toutes les entreprises, ce qu'ils veulent c'est ne plus perdre de temps avec des tâches à faible valeur ajoutée et des solutions qui marchent, qu'on consomme comme un iPhone. Ils veulent surtout que les solutions leur disent un peu ce qu'il faut faire, les conseils quasi en temps réel au quotidien. Le tout en marchant très bien, si possible, et en coûtant le moins possible. Puisqu'on est sur ce qu'on appelle d'habitude des fonctions back-office, je déteste ce terme, parce que ça donne un côté péjoratif.
Oui, c'est vrai.
Mais si on enlève la paye et la finance d'une ETI,
tout s'arrête. Très bien, Antoine.
Oui, alors j'ai vu que vous aviez des solutions de gestion des compétences, gestion des talents. Oui. On sait que le marché du recrutement, il est extrêmement tendu en ce moment. Je crois que tout le monde le vit, peut-être vous et sûrement vos clients. Qu'est-ce que vos outils apportent comme potentielle solution pour pallier cette situation? Est-ce qu'il y a quelque chose de différenciant pour retenir, pour attirer, attirer d'abord, retenir ensuite?
Alors, c'est une excellente question. Dans les solutions, dans la suite RH de Talentia Software, il y a bien sûr un module recrutement qui est moderne, qui est convivial, etc. Mais qui, je vous le donne en mille, ne fait pas arriver une pile de candidats parfaits chez nos clients.
Le baby-foot, ça marche pas? C'est fini, ça?
Non, mais alors, le baby-foot, mon pauvre, c'est déjà...
C'est un peu ringard, c'est vrai. Pourquoi pas le flipper, ton connu, oui.
Ça a 10 ans. On a un écosystème de start-up pour essayer d'être à la pointe de l'innovation avec lequel on travaille et on collabore pour avoir les meilleures solutions. Très franchement, et je le dis parfois aux clients, ce qui fait venir les candidats dans une entreprise, c'est l'actif entreprise. Le logiciel de recrutement, c'est quand même... il ne faut pas tout miser là-dessus, même si c'est bien. Il faut d'abord penser à son actif plutôt qu'à son outil de recrutement, même si celui de Talentia est performant, efficace et agréable à utiliser.
Autre question, elle porte sur la RSE. Oui. Vous êtes un éditeur. Aujourd'hui, on sait que l'empreinte carbone du numérique, c'était quelque chose dont on ne parlait pas tellement il y a quelques années et ça commence à être très regardé parce que la croissance est extrêmement forte. Est-ce que vous, à votre stade de développement, vous avez déjà des objectifs liés à ça? C'est quelque chose que vous pilotez ou pas encore parce que ce n'est pas encore la priorité?
Alors, si je vous disais qu'au quotidien, je conduis les destinées de Talentia à un œil rivé sur mes indicateurs RSE, j'exagérerais légèrement la réalité. D'accord? Ensuite, est-ce que ça me perturbe? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que mes collaborateurs y prêtent attention? La réponse est évidemment. Donc, typiquement, sur nos fermes de serveurs, nos partenaires cloud, etc., on prête une attention au moins énergivore. Et en ce qui concerne les solutions de Talentia, typiquement sur les logiciels de finance et de comptabilité, on réfléchit à ce que, comme on est à la source de la saisie de tout ce que consomme une entreprise, on aimerait bien être capable de sortir un bilan CO2 nativement grâce aux données comptables que saisit l'entreprise, par exemple. Donc les RSE, je reviens au sujet du recrutement, n'en parlons pas, tous les sujets globaux des RSE, celui qui n'y va pas, en tout cas dans le software, il va y avoir vite un problème.
Le capital de l'entreprise, aujourd'hui, Pierre, qui sont les actionnaires?
Le fonds d'investissement Argos With You, qui est majoritaire depuis bientôt 6 ou 7 ans.
Oula, c'est long ça, non?
Oui, c'est long. C'est le rythme de rythme classique.
Confirmé, voilà. Arnaud, 6-7 ans, c'était...
Pour certains, entre c'est 5 et 7.
Entre 5 et 7, donc on est pile poil dans
on
le
prépare
tempo.
Sa sortie, peut-être.
et puis les collaborateurs, bien évidemment, et puis quelques autres actionnaires financiers. Mais les collaborateurs ont plus de 20% de l'entreprise.
Oui, c'est important ça. Ah oui, c'est intéresser essentiel. Les collaborateurs aux dividendes à l'entreprise, c'est une façon de les retenir aussi, Pierre?
En tout cas, moi, c'est mon critère RSE number one. Je ne sais pas si ça fait partie de la norme 26 000, mais en tout cas, moi, je ne sais pas diriger une boîte dont les collaborateurs ne sont pas intéressés aux résultats.
Les ETI en France, quelle est votre vision des ETI à la française? On a encore du boulot, on nous compare toujours avec les Allemands, avec les Italiens, tout ça, là, faut arrêter de s'autoflageller, on est bon quand même, non?
Ouais, je pense qu'on est excellent et un peu trop oublié. Alors moi, je me plains pas, vous le savez, j'ai jamais été du patronat qui réclame, ni des aides, ni quoi que ce soit, mais la frustration que j'ai, c'est qu'on n'est pas très nombreux, donc j'ai le sentiment qu'on pèse pas beaucoup électoralement. C'est idiot, mais enfin, c'est comme ça. Alors que c'est un actif sur lequel on pourrait vraiment créer plus de valeur si l'écosystème... On est aidé, il n'y a pas de sujet, mais je trouve qu'on est peu vu.
Il n'y a pas assez de reconnaissance, Pierre?
Reconnaissance, si. Alors bien sûr, quand on en parle avec des responsables politiques, ils sont aux anges et ils sont toujours à côté de nous, dans les territoires. N'en parlons pas, les patrons de région, les patrons de département adorent tous leur ETI. Mais globalement, ça reste une catégorie d'entreprises que j'estime être essentielle, pas parce que c'est Talentia et mes clients, mais parce que réellement, c'est là que se crée l'emploi, l'innovation, la valeur, l'international pour demain. Et j'ai du mal à exprimer pourquoi on est si peu visible.
On parle trop des startups et pas assez des ETI ?
On parle beaucoup des startups, énormément des indépendants et des PME, parce que c'est un immense tissu économique et accessoirement un gros électorat. On parle des grands groupes, Fer de Lance, qui, avec des centaines de milliers de collaborateurs. Et puis là, on est au milieu.
Oui, les 5800 ETI françaises sont...
On est bons élèves, on est ancrés dans les territoires, on est parfois centenaires, bicentenaires, parce que dans ces ETI, il y a quand même beaucoup de patrimoines familiaux qui se transmettent, et pour le meilleur. Il y a des fonds d'investissement, enfin, il y a tout un... Je pense qu'il y a tout le panel de ce que peut être une equity story en bon français d'une entreprise. Et je trouve que la visibilité peut mieux faire, malgré tous les mouvements qui se battent, quoi.
Dites-nous, Pierre, le plus beau métier du monde, c'est jockey ou patron de l'ETI ?
Alors moi, j'ai vraiment cru à jockey longtemps, jusqu'en 6e.
Vous mesurez combien ?
Jusqu'en 6e, 1m78, mais c'est surtout les 90 kilos qui sont venus tôt me perturber dans mes projets. Et du coup, je trouve que patron, c'est un métier aussi fatigant qu'exaltant, et j'ai pas envie d'en faire un autre.
Et vous êtes plutôt judo ou rugby ?
Je fus judo et rattrapé par les problèmes de poids, du coup le rugby
est
plus naturel. Ouais.
Alors côté vin, vous adorez les bons vins, quelles sont vos régions favorites ou vos trois derniers coups de cœur ?
Mes trois derniers coups de cœur. Alors déjà j'ai une région coup de cœur, c'est celle où j'habite, c'est le Beaujolais. Je le redis très souvent, quand on est initié aujourd'hui, on sait que le Beaujolais c'est une région exceptionnelle.
Absolument.
Chaque mois, il y a un vigneron sorti de nulle part qui sort des blancs, des rouges. Alors, évidemment, on est dans le Gamay, fantastique. Mais c'est quand même, pour le grand public, une appellation qui a été matraquée pendant
des années. Un peu comme Muscadet, l'image n'est pas bonne.
Alors, donc moi je me bats pour l'image et les vignerons de la...
Du Beaujolais, quoi.
Notamment
des crus du Beaujolais.
Des crus du Beaujolais. Et puis, j'aime bien aussi ma région native, qui est juste un petit peu plus au nord, le Mâconnais blanc. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai bu récemment ? J'ai bu ce week-end un crémant de Bourgogne fait avec de l'aligoté.
Voilà. Et ça donne quoi ? C'est bon ?
Ça donne quelque chose de vif, tendu, très agréable, assez naturel.
Et enfin, pour terminer, Pierre, vous soutenez des causes caritatives ou humanitaires ?
On essaye de... Typiquement, en ce moment, on a reçu dans l'entreprise deux jeunes filles de Kiev. Ouais, on essaye de faire de l'inclusion par tout ce qui est formation et accompagnement des jeunes qui cherchent un peu, enfin qui se cherchent. Voilà. Et on les prend dans l'entreprise.
Merci beaucoup Pierre, merci également à vous Arnaud et Antoine. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.